morning edition from NPR News.
Let's eat in San Peter House.
France Inter, le 18/20.
Ce soir, nous sommes au Soudan, mais pas seulement, un peu au Tchad, un peu en Guinée, un peu en Éthiopie, bien sûr au Mali. Comment les militaires ont la tentation de reprendre la main après des tentatives démocratiques? Comment cette contagion de putsch est dangereuse? Vers quoi mène-t-elle l'Afrique? On y vient avec le grand invité de ce soir. Le bruit du monde est à Wuhan, 2 ans après le premier mort officiel du Covid. Aujourd'hui, si on regarde de loin, la ville vit mieux que nous, sans restriction, mais le souvenir de ce confinement terrible, personne ne l'a oublié. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Lejeune a trouvé un nouveau scandale pour la première ministre suédoise. Un bébé retrouvé par terre à l'aéroport de Kaboul qui, 5 mois après, a retrouvé sa famille. Et puis des chiens policiers allemands suspendus de leur fonction. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce avec notamment des étiquettes de lavage spéciales femmes dénichées sur TikTok. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four et la mort de David Sassoli, le président du Parlement européen qui fait 2 lignes en France. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Vincent Hugeux.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous avez longtemps été grand reporter pour l'Express. Vous êtes l'auteur de Tyrans d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial. On avait eu l'occasion d'en parler ici. D'ailleurs, c'est paru l'année dernière chez Perrin. On était parti, Vincent Hugeux, pour parler Soudan ensemble. Et bien sûr, on va le faire, mais l'actualité nous emmène aussi tellement chez les voisins qui, semble-t-il, ont le même syndrome de la putschite aiguë. C'est un terme que je vous ai piqué. Mais c'est vrai que la liste commence à être longue. Je garde le Mali pour la fin, d'ailleurs. Mais allons quand même, commençons d'ailleurs par ce Soudan. Parce que cette révolution-là, à un moment, a eu des allures de modèle. On se souvient que certains, on se souvient des Algériens, par exemple, qui regardaient en disant « c'est peut-être ça le modèle, cette transition mi-militaire, mi-civile, qui arrivera vers des élections et un pouvoir civil ». Si, au fond, ça explose depuis le mois d'octobre et que ça continue aujourd'hui, est-ce que c'est parce que, au fond, les militaires ont peur que ça marche ?
Si vous voulez, c'est vrai que l'épopée soudanaise avait suscité dans tout le continent africain un immense espoir. Mmh. Voilà un pays qui, en 65 ans d'indépendance formelle, n'a connu que quelques années sans généraux à sa tête. Mmh. Un pays qui sort de 3 décennies de la dictature militaro-islamiste de Omar el-Béchir, qui, via d'ailleurs un alliage assez singulier de militaires dissidents, de militants démocrates, etc., parvient à se délester de cet écrasant fardeau et simplement chasser le naturel couleur kaki, il revient au triple galop. En fait, à un moment donné, et c'est un schéma que l'on retrouve dans pas mal de pays du continent, il y a l'apparence d'une cession d'une partie de l'exécutif à des civils. Donc on s'aperçoit très vite que dans le regard du militaire bête et brutal, il n'est qu'une caution, une vitrine, un alibi. Et quand il y a une crainte de perdre non seulement le pouvoir symbolique, mais aussi les prébendes qui y sont associées, le contrôle d'une partie significative de l'économie. Mmh. Au Soudan, les militaires contrôlent des tas de secteurs d'activité, du BTP jusqu'à la téléphonie mobile, en passant par le commerce des volailles.
Et même des familles d'ailleurs qui sont absolument derrière.
Eh bien, ce jour-là, évidemment, le vernis craque, les masques tombent, c'est pas de circonstance, mais j'emploie l'image quand même, et ils reviennent à leur vraie nature, et je reviens simplement une demi-seconde, puisqu'on en parlera plus tard sur le Mali, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez un premier coup d'État à l'été 2020, qui d'ailleurs suscite un lâche soulagement à Paris, tant la gouvernance du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, était navrante, et vous avez donc un président civil par intérim, un premier ministre lui aussi civil, des personnages d'ailleurs éminemment respectables. Et qu'est-ce qui advient ? Le putsch au carré moins d'un an plus tard, où on se débarrasse de cette caution, de cet alibi, et on reprend les manettes, ce qu'a fait le colonel Assimi Goïta.
Abdallah Hamdok, au Soudan, c'était une marionnette, effectivement, parce qu'il y a eu un aller-retour, il est là au début, et puis il s'en va, et puis finalement il y a cette espèce d'accord, donc il accepte de revenir. Est-ce qu'il s'en va au fond parce qu'il se dit « ok, j'ai compris les kakis, comme vous dites, donc je ne serai pas caution de ça », ou est-ce qu'on dit qu'il a été naïf et berné de bout en bout ?
C'est une figure shakespearienne, Hamdok, parce que voilà quelqu'un qui est un économiste respecté, qui a fait une bonne partie de sa carrière dans le système onusien, qui a un excellent réseau à l'échelon planétaire, et il croit sincèrement qu'il va pouvoir accompagner cette transition vers un pouvoir civil durable. Et donc, effectivement, il est à un moment la caution de ce régime. Il est débarqué, il est même en résidence surveillée, et au fond, les militaires vont le rechercher parce que, notamment au regard des instances internationales, ils ont besoin de redorer un blason un peu terni. Hamdok y retourne, mais dès lors, il bascule, et c'est là où il y a une dimension shakespearienne, du statut de héros. Il était révéré, idolâtré par la foule, à Khartoum et ailleurs.
Il devient traître.
Et instantanément, il devient le traître et, dans le meilleur des cas, l'otage. Et donc lui-même va établir ce constat d'échec, et lorsqu'il redémissionne le 2 janvier dernier, il dit « J'ai fait de mon mieux pour éviter que le pays glisse vers la catastrophe, je n'y parviens pas, c'est impossible. »
Mais alors, vous disiez c'était un gars très respecté, c'est surtout un technocrate aussi, mais vraiment dans le premier sens du terme, en fait, qui a réussi assez vite, grâce à l'entregent qu'il a, parce qu'il en a, à faire lever une partie des sanctions américaines, à faire rentrer le Soudan dans les programmes du FMI, dans ceux de la Banque mondiale, à réduire la dette, etc. Est-ce que ça veut dire que tout ça, c'est un travail qu'on peut biffer d'une croix ?
Si vous voulez, la caution internationale, c'est un peu le baiser de la mort. C'est-à-dire que oui, effectivement, vous acceptez des principes d'austérité, par exemple. Vous supprimez des subventions, vous travaillez à l'allègement de la dette, et vous avez une inflation de 300%. Donc vous apparaissez très vite comme, en quelque sorte, la marionnette, non seulement d'un pouvoir militaire exécré, mais aussi d'acteurs internationaux qui veulent appliquer leur recette à l'ancienne, libérale, quasiment impérialiste. Donc il est totalement pris dans l'étau, il est au fond entre le marteau de la puissance militaire et l'enclume d'une société civile qui ne veut pas transiger là-dessus, et qui veut continuer de croire à son rêve de transition durable vers un pouvoir civil.
Sauf qu'on est revenu quasiment 2 ans en arrière, est-ce qu'on remet le dentifrice dans le tube ? Est-ce qu'on peut faire ça ?
Écoutez, le rapport de force, il est écrasant en faveur des militaires. Ils ont le monopole de ce qu'on appelle la violence légitime, en l'occurrence fort peu légitime. Mmh. Mais ils ont le monopole de la violence. Est-ce que ça veut dire que la flamme soudanaise est éteinte ? Certainement pas. Vous avez des gens qui, depuis 2 ans, défilent, défient le pouvoir, dans le meilleur des cas, gaz lacrymogène, dans le pire des cas, la mort.
Absolument.
63 tués depuis simplement le coup d'État dans le coup d'État, là encore, du 25 octobre dernier. Bon. Et donc, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Mais honnêtement, il faudrait un miracle inenvisageable pour que les militaires soient touchés par la grâce, soudainement, au point de revenir à la promesse initiale, qui est la leur. Alors maintenant, on nous parle d'une transition à hauteur de l'été ou l'automne 2023, avec des élections. Je demande à voir.
On marchande même la date des élections, ce qui est complètement ridicule. On va dire 5 ans, on va dire 4 ans. Enfin,
Ça, c'est le schéma malien, effectivement.
Exactement. Et quand on regarde les voisins, cela dit, et quand on regarde les soutiens russes, les soutiens chinois, quand on regarde les voisins, on se dit que de toute façon, qui a intérêt à ce que le Soudan soit déstabilisé ? C'est toujours le bon vieil argument. Donc, qui a intérêt à venir soutenir les Soudanais au moment où on se parle ?
Parmi les acteurs dont on vient de parler, tout le monde a un intérêt objectif, a une stabilité, fut-elle martiale et kaki. C'est-à-dire que il y a des enjeux géopolitiques, notamment dans les relations avec l'Éthiopie, avec l'Égypte. Il y a évidemment la question récurrente du partage des eaux du Nil et de leur maîtrise, puisque c'est quand même la ligne de vie de cette partie du monde. Donc, vous avez aussi les Russes et les Chinois qui exploitent jusqu'à plus soif la thématique du relativisme culturel. Nous ne sommes pas là pour juger de la valeur démocratique ô combien de votre régime. Ce qui compte, c'est de faire avancer les projets, les chantiers, les barrages, le BTP, etc., etc. Donc, non, effectivement, vous savez, l'aventure démocratique, c'est à la fois un élan et un vertige. C'est vrai pour des sociétés qui ont vécu sous le joug de la tyrannie pendant des décennies. C'est vrai aussi pour des acteurs extérieurs qui ont une vision extrêmement pragmatique et cynique du devenir de ces sociétés.
Alors, si on fait une liste qui est assez cynique, autour du Soudan, il y a le Tchad et 2 coups d'État pour la seule année dernière. Il y a l'Éthiopie qui est en guerre dans la situation que l'on sait. Après, là aussi, d'ailleurs, un espoir monumental et un prix Nobel. Il y a la Guinée qui a terminé sur un push l'année dernière. Il y a le Mali sur lequel on reviendra. Il y a la Tunisie. Je sais pas très bien dans quel cas on la met, la Tunisie. Peut-être que vous nous le direz. Cette liste n'est pas exhaustive. Est-ce qu'on va trop vite, qu'est-ce qu'on dit quand même de cette contagion, Vincent Hugeux ? Est-ce qu'on dit qu'il y a une dérive globale, en fait ?
Il faut évidemment toujours se méfier des analogies géopolitiques.
Et de l'Afrique avec un grand A qui dirait que tout le monde se ressemble.
Voilà. Cela posé, il y a quand même une tendance qui est marquée, moi que j'observe de très près depuis une vingtaine d'années. me souviens, en 2012, j'avais publié un petit bouquin qui s'appelait « Afrique, le mirage démocratique ». Mmh. J'étais traîné dans la fange sur le thème « Qu'est-ce que c'est que cet afro-pessimisme insupportable, etc. ?» J'aurais adoré me tromper. Mmh. Sauf que tous les ingrédients que j'explore dans ce bouquin, ils sont mis à l'œuvre. Alors ça va du putsch vintage, bête et brutal, hein, à l'ancienne, mmh, qu'on croyait révolu, avec le sous-officier qui vient annoncer un texte auquel il ne comprend rien à 20h sur la télévision nationale, très bien, cédant à l'appel de notre peuple, nous avons décidé de sauver la République, blabla, etc., etc. Bon, ça c'est le putsch vintage, donc. Et puis vous avez des restaurations autoritaires un peu plus sophistiquées, mais dont la vocation est la même. Que le monopole de l'exercice effectif du pouvoir soit exercé par des militaires. Et le plus grave dans tout ça, c'est que vous avez également, dans des versions plus subtiles, le dévoiement des instruments de la démocratie. Mmh. Simplement, alors la constitution bricolée, donc le troisième mandat moyennant une loi fondamentale taillée sur mesure, vous avez la fraude électorale massive, vous avez la mise à l'écart de candidats réputés dangereux, que l'on emprisonne au nom de la sécurité nationale, etc. Et tous les instruments de l'orchestre jouent pour cette énorme cacophonie. Le seul espoir, au fond, dans tout ça, c'est que le fossé entre les aspirations profondes, tenaces, vivaces, des sociétés civiles africaines, qui sont autant éprises que l'Amérique du Sud ou l'Europe de liberté, de libre-arbitre, etc., le fossé entre ces pratiques totalement anachroniques et ces aspirations, il devient de plus en plus intenable. Alors, on peut aujourd'hui conquérir ou garder le pouvoir au prix de ces instruments de la tyrannie. C'est vraiment le prix à payer, à la fois en termes humains, en termes d'image, en termes de symboles, est écrasant.
Alors, ce Mali qui nous concerne d'aussi près, évidemment, ce qui est intéressant en ce moment, intéressant ou inquiétant, d'ailleurs, vous allez nous le dire, c'est ce que dit la CDAO, qui a suspendu, qui avait d'ailleurs déjà suspendu le Mali, la Guinée, effectivement, qui met en place un blocus, qui gèle des avoirs, c'est pas la première fois qu'il y a un gel des avoirs. Qu'est-ce qu'on pense de ce coup de poing sous la table? Est-ce qu'il a de quoi nous inquiéter tout autant qu'il nous intéresse?
Ce qui est préoccupant dans le cas du Mali, hein, au-delà de cette transition télescopique, élastique à 5 ans, ce qui est préoccupant, c'est que, évidemment, la junte, qui jouit d'une certaine forme de popularité, à la fois le mythe de l'homme fort, l'exaspération intense des Maliens qui, après 10 ans, s'aperçoivent que le cancer djihadiste continue de ronger le pays jusque dans le cœur de son tissu social, eh bien, donc, on va nous expliquer maintenant que la CDAO est une marionnette des Occidentaux, donc de la France, et que, évidemment, on se drape dans les couleurs nationales, hein, ce souverainisme ombrageux, bravache. Je vous donne 2 exemples tout à fait récents. Vous avez donc le président de transition, le colonel Assimi Goïta, qui explique qu'il faut, je le cite, « défendre notre patrie ». Et son gouvernement parle de mobilisation générale et de plan de riposte. Tout ça, c'est de la rhétorique à 3 francs CFA. Mais ça fonctionne dans une partie de la société, parce que encore une fois, la rancœur intense qui est suscitée par l'échec à la fois de l'armée nationale et des corps étrangers de type opération française Barkhane, mission onusienne MINUSMA, donne crédit à ce type de fermeture et de crispation qui est amplement relayé, manipulé par les réseaux sociaux et des acteurs extérieurs type Russie qui ont un intérêt objectif à ce que le français soit bouté hors des frontières du Mali, pour s'y installer et se payer sur la bête, c'est-à-dire l'or, le coton, le diamant et autres ressources du pays.
Mais
c'est
le cas
en Centrafrique aussi.
Est-ce que ce que ça veut dire, cette prise de position de la CDAO, blocus et gel des avoirs, est-ce que ça veut dire effectivement flamber, vous le disiez, d'un sentiment anti-français qui peut devenir encore plus dangereux qu'il ne l'est, et puis surtout flamber djihadiste, parce qu'en général c'est la paupérisation et le djihadisme, hélas, marche main dans la main. Donc est-ce que c'est ça qui pend au nez du Mali, là, pour les mois qui viennent?
Mais ce qui est de toute façon la tragédie de ce pays, c'est que on a pour habitude en Occident de considérer que le djihadisme ne fait son miel que de la violence brutale, la cruauté, la férocité. Tout ça existe. Mais la vérité, c'est que le djihadisme s'engouffre dans la brèche béante laissée par des États défaillants. Et que vous avez des régions du Mali aujourd'hui, notamment dans le nord et dans le centre, où ceux qui apportent un semblant, un ersatz de services publics, nourriture, soins, éducation, évidemment très orientée, ce sont les djihadistes. Et que l'État, faillit de naissance parfois, n'a jamais été capable de réinvestir ces régions, qu'il voit avec un regard lointain et parfois méprisant, et que donc, évidemment, on a ouvert un boulevard à cette radicalité-là.
Est-ce que vous pensez, Vincent Hugeux, que l'un des buts aussi de la CEDEAO, c'est de montrer, puisqu'ils ont exclu le Malu, ils ont exclu la Guinée, c'est de montrer aussi aux pays lointains, aux pays proches, pardon, je vous préviens, si vous aussi vous avez cette tentation-là, voilà ce qui risque de vous arriver. Est-ce que ça a un poids, ça, ou pas du tout?
Oui, mais cette rigueur soudaine de la CEDEAO, elle a deux causes principales. La peur de l'encontagion, parce que précisément, il y a un effet désinhibiteur. Dans le putsch qui fonctionne, si grotesque soit-il parfois dans ses formes. Et puis, il y a autre chose, c'est que ce que ne dit pas ce communiqué, c'est que la CEDEAO est profondément divisée, et que d'une certaine manière, elle se refait la cerise, la prune, si c'est le fruit de votre choix, sur cette soudaine vigueur de la condamnation des putschistes maliens.
Bon, et tous ces pays ne sont pas des parangons de démocratie non plus, d'ailleurs, à l'intérieur de cette organisation. Juste une dernière chose, il nous reste 30 secondes, mais on l'a à peine évoqué, je vous ai posé la question tout à l'heure, dans quelle case on met la Tunisie? Là, alors, c'est pas pareil, là, c'est pas un...
La Tunisie, vous avez donc un président qui est élu très confortablement en 2019, hein, 73% des suffrages, et qui a été, le plus drôle, un professeur de droit public, président de l'Association tunisienne du droit constitutionnel entre 1995 et 2019, et qui décide à un moment donné que l'on dissout la Constitution, que l'on vire le Premier ministre, et que surtout, on continue la guerre à Ennahda, donc ce parti islamiste. Donc, il y a chez Kais Saied, puisque tel est son nom, président tunisien, élu à l'origine, un prurit autocratique qui ne peut s'accommoder d'aucune forme de dissentiment ou de critique. Et qui recueille, là aussi il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, un certain écho dans la population. Et je termine là-dessus, parce que ça c'est une clé, en Tunisie comme ailleurs. Là aussi, c'est l'échec d'expériences réputées démocratiques, avec les immenses failles de gouvernance qui sont rongées par la corruption, par l'incurie, par l'indifférence, par le mépris des gens d'en bas, qui ont là aussi, en quelque sorte, dopé cette prétention césariste et qui lui ont donné une forme de légitimité paradoxale.
Vincent Hugeux, merci beaucoup. Passionnant, bien sûr, je rappelle votre ouvrage parce qu'il résonne à nouveau avec cette conversation « Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial » paru l'an dernier chez Perrin. Merci mille fois.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde. Retour à Wuhan, en Chine, où tout est revenu à la normale 2 ans après le début de l'épidémie. Tout, quand on regarde vivre la ville, mais vous l'entendrez dans les têtes, c'est bien autre chose. Pour aller jusqu'à 19h, Sébastien Legénie sous les radars.
Le Stead Gate, autrement dit le Ménage Gate, ébranle la Suède et sa toute nouvelle première ministre.
Passons genre dans le monde et Julia Foyce. Bonsoir Julia.
Bonsoir, 8 jeunes Européens sur 10 victimes de violences au cours d'un entraînement sportif.
Le Monde d'après, Jean-Marc Faux, bonsoir à vous Jean-Marc.
Bonsoir à tous, ce soir j'ai envie de rendre hommage à David Sassoli, le président du Parlement européen mort la nuit dernière. Sa mémoire est largement saluée partout en Europe, mais largement ignorée en France.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini, il fait un tour par Cuba avec les jumelles franco-cubaines IBI et le rappeur Passalieu, figurez-vous. Le dernier single s'appelle Made of Gold et c'est sur France Inter.
Me show them heroes, feel it. We are the younger, the hunger. Me show the heroes, feel it. Alright, one more time. Me show them heroes, feel it. We are the younger and the hunger. Me show them heroes, feel it. We are the younger and the hunger.
Holy water, crying at the altar. Your desire, freedom from the Maya, Maya, fire, burning at the altar. We
on now. They really broke us. They can never break our story now. My son showed them passion. Your history walked through them golden lines. Your blood carries diamonds. When they fought, they cleared our spirit away. We are the reincarnation.
My spell made up.
Le bruit du monde ce soir est à Wuhan, 2 ans après l'annonce officielle dans cette ville symbole chinoise du premier mort d'une drôle de grippe virant en pneumonie qui bientôt allait submerger le monde. C'était donc il y a tout juste 2 ans, le 11 janvier 2020. Wuhan, c'est la ville qui a compté le plus de morts, mais on ne sait toujours pas, on ne saura sans doute jamais combien de personnes sont réellement décédées. Les 11 millions d'habitants de la ville gardent en revanche un souvenir traumatique de ces 2 mois et demi d'un confinement ultra strict. Alors est-ce que Wuhan a su tourner la page ? En apparence, oui. Le reste, c'est Sébastien Berriot qui raconte.
Les habitants de Wuhan savent qu'avec Omicron arrivé en Chine, tout peut basculer d'un instant à l'autre, mais pour l'instant, la ville n'a pas été touchée par le variant. Depuis 2 ans, la vie est redevenue normale. Il suffit de regarder la foule qui se promène sur les bords du fleuve Yangtze pour se dire que l'épidémie est aujourd'hui bien loin. On voit dans la rue beaucoup de visages sans masque. Et lorsque vous rentrez dans un restaurant, personne ne vient vous demander de présenter un code QR sanitaire. Lynn, la quarantaine, a l'impression d'avoir retrouvé sa liberté.
2 ans après l'épidémie, je suis vraiment contente du fond du cœur. C'est presque normal ici. La vie est de nouveau sur les rails. Et cette vie, je la chéris, surtout pour une Wuhanaise qui a vécu le confinement plus de 3 mois sans bouger de chez elle.
Une vie normale, mais Wuhan conserve toujours les cicatrices visibles de 2020. Le fameux marché aux fruits de mer est toujours là, caché par des panneaux. Et puis il y a ce traumatisme, tous ces souvenirs d'il y a 2 ans que certains n'arrivent pas à effacer. Bei Bei est institutrice dans une école maternelle de Wuhan.
Aucun d'entre nous n'a oublié l'épidémie. Les enfants écrivent encore souvent sur cette période dans leur journal intime. Ils n'arrivent pas à oublier. Moi, j'ai très mal vécu ce confinement. En vivant dans la peur, j'ai pris du poids. C'est incroyable. Je m'inquiète vraiment du retour de l'épidémie car je ne veux plus revivre une telle expérience. C'est un sentiment tellement désagréable.
L'émotion est forte aussi pour Man, jeune père de famille.
Je n'ai pas particulièrement envie de me souvenir de cette période qui est à marquer en gris. Dernièrement, je suis allé à Shenzhen pour un échange professionnel et mes collègues m'ont demandé de partager certains sentiments que j'ai éprouvés à Wuhan pendant l'épidémie. J'avais envie de pleurer en parlant, c'était très dur.
Le traumatisme n'empêche pas la fierté des habitants, fierté de montrer que l'épreuve a pu être surmontée.
Quand Wuhan a été fermé, tout le monde était terrifié. Si on regarde ça 2 ans plus tard, je pense que la politique du gouvernement était très bonne et rapide. La Chine est forte et je fais confiance en mon pays. Nous n'avons plus peur de l'épidémie, nous pouvons la surmonter de manière totale.
L'épidémie de Wuhan est bien gérée par le gouvernement. Il n'y a plus de cas maintenant. Vous voyez que la Chine contrôle bien le Covid, les gens vivent et travaillent dans la paix. Dans la rue, la vie est normale. Les habitants préparent la fête de Nouvel An chinois, c'est une ambiance paisible.
Certaines voix dissidentes profitent de cet anniversaire pour s'exprimer et demander des comptes aux autorités, comme Zhang Yi, qui dénonce la disparition de certains lanceurs d'alerte.
Dans les rues vides, les ambulances qui défilent les unes après les autres à pleine vitesse, avec des sirènes hurlantes. 2 ans après, cela est toujours dans ma tête. Je pense encore à ces images violentes. Fang Bin a filmé une vidéo dans l'hôpital. Quand il est entré, il a vu 3 cadavres dans le véhicule funéraire. En 10 minutes, il a fait un tour dans l'hôpital. Il y avait 10 cadavres au total. Actuellement, on ne sait pas où est le courageux monsieur Fang Bin de Wuhan. C'est lui qui, le premier, a averti le monde de cette tragique épidémie.
La colère aussi de Zhang Hai, qui lui a perdu son père, décédé du Covid dans un hôpital de Wuhan début 2020. Il réclame toujours un procès.
J'ai poursuivi en justice le gouvernement provincial, la municipalité locale et l'hôpital. Mais à ce jour, je n'ai aucune nouvelle, que ce soit des tribunaux de Wuhan jusqu'à la Cour suprême du peuple. Deux ans après, l'attention portée par le public sur ce sujet a décru et les autorités en profitent pour prendre des mesures de rétorsion contre nous. On m'empêche de sortir, je suis surveillé. L'une de mes revendications les plus importantes est que le gouvernement présente des excuses aux victimes. Maintenant, je suis le seul qui demande un procès. Les autres familles ont été soumises à une forte pression et je les comprends.
L'énorme hôpital provisoire construit en 2020 en un temps record de 10 jours a été fermé, mais le bâtiment, toujours là, n'a pas été démonté. Preuve que les autorités n'excluent pas un retour de l'épidémie.
Le retour à Wuhan de Sébastien Berriot, correspondant de France Inter en Chine. Merci beaucoup Sébastien. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale. Passez sous les radars et c'est l'autre Sébastien, Sébastien Logénie. Et nous sommes absolument, monsieur, dans les rues de Stockholm. Très spécifique, la Suède secouée par un scandale politique qui éclabousse encore la première ministre.
Oui, l'arrivée de Magdalena Andersson au pouvoir est décidément bien agitée. Il y a un mois, la social-démocrate, première femme à ce poste, avait dû démissionner au bout de 7 heures seulement, réélue certes dès le lendemain chef de gouvernement, mais c'était un peu comme si son mandat commençait sous de mauvais auspices. Et bien à peine arrivée aux affaires, donc voilà qu'elle est au cœur d'une polémique qui fait la une de tous les journaux depuis 3 jours. L'affaire tient en quelques lignes. Le 21 décembre dernier, une femme originaire du Nicaragua, en situation irrégulière, est interpellée au domicile privé de la première ministre alors qu'elle y fait le ménage. L'alarme s'est déclenchée par accident. Ce jour-là, Magdalena Andersson ne vit plus dans sa maison. Elle vient d'emménager avec sa famille au palais de Sagerska, la résidence officielle des premiers ministres à Stockholm. La presse révèle l'arrestation et depuis, la polémique flambe de partout. Elle a pris le nom de Stedgate, le ménage gate en bon français. Premier scandale, les services de renseignement n'étaient pas au courant de l'identité de toutes les personnes ayant accès au domicile de la première ministre. Une faille inquiétante dans ce pays qui a vu un premier ministre, Olaf Palme, et une ministre des Affaires étrangères assassinés en pleine rue ces dernières décennies. Et puis deuxième scandale, la société de ménage choisie était loin d'être vertueuse. Elle ne respectait aucun accord de branche. Son patron avait été condamné pour fausse facture et employait des sans-papiers. Alors que Mme Andersson déclarait il y a encore 2 mois la guerre à l'argent noir, ça commence à faire beaucoup.
Direction l'Afghanistan, avec l'histoire incroyable de ce bébé perdu dans le chaos de l'aéroport de Kaboul.
Oui, un bébé de 6 semaines à peine. L'image avait fait le tour du monde en août dernier, au moment de la prise de pouvoir des talibans. Un père tend les bras vers les soldats américains et lui donne son enfant, le petit Sohail, au milieu d'une foule en panique, symbole d'un pays en perdition, de ces Afghans prêts à tout pour fuir. Mais dans le désordre apocalyptique qui règne alors à l'aéroport, la famille Ahmadi est séparée. Le bébé est introuvable malgré 3 jours de recherche. La famille qui décide en désespoir de cause de rejoindre quand même les États-Unis et qui va continuer depuis là-bas à chercher son enfant. Eh bien, après 5 mois d'enquête de la police et sur les réseaux sociaux, le petit Sohail a enfin été retrouvé à Kaboul. C'est un chauffeur de taxi qui a récupéré le nourrisson abandonné sur le sol de l'aéroport. J'ai vu ce bébé allongé en très mauvaise santé, raconte aujourd'hui le chauffeur Hamid Safi. J'ai regardé autour de moi, je l'ai montré à plusieurs personnes, mais aucune ne le reconnaissait. J'ai appelé alors ma femme à la maison, j'ai ramené l'enfant, je lui ai acheté du lait et on a commencé à l'élever. Voilà, le petit Sohail a désormais été remis à son grand-père. Un arrachement pour sa famille d'adoption. Il faudra maintenant de longs mois pour que l'enfant puisse retrouver sa vraie famille aux États-Unis.
Et on termine avec des bergers allemands qui ne sont plus les bienvenus dans les rues de Berlin.
On ne parle pas des toutous lambda, leurs propriétaires n'ont rien à craindre. On parle ici des chiens de la police berlinoise, des chiens entraînés pour détecter des explosifs, de la drogue, des personnes disparues ou pour menacer des criminels en cas d'arrestation. Une cinquantaine de canidés au total dans la capitale allemande qui ont été suspendus de leurs fonctions la semaine dernière car leur entraînement contrevenait à une nouvelle loi sur les animaux, une circulaire entrée en vigueur le 1er janvier et qui défend le bien-être animal. Interdit, par exemple, la technique du collier de traction, ce petit coup de collier que l'on donne au chien pour restreindre ses voies respiratoires et contrôler son agressivité. Une défense du bien-être animal qui a rendu furieux les syndicats de policiers. Et comme l'explique cette journaliste allemande, eh bien les chiens suspendus ont finalement pu être réintégrés à la demande des agents de police. La police de Berlin qui, en revanche, n'a plus le droit de dresser de nouveaux chiens avec ces techniques, les syndicats s'engagent à trouver de nouvelles méthodes non douloureuses.
Eh bien, merci beaucoup. Peut-être même que ces chiens ne voulaient pas du tout être berger allemand. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être qu'ils ne voulaient pas rentrer dans la police. Ouais, peut-être qu'ils voulaient faire comédien. Allez
exactement.
Savoir. Allez, on en saura plus. En tout cas, peut-être demain. Merci beaucoup. Vous partez en tout cas avec la médecine de Nick Waterhouse sur France Inter.
Well, you flew to New Orleans to rent a car and to see your friend. To put him in the hospital again. In the back, on the second floor, right across from the radio bar. No food in the fridge, I guess things had gone too far. Well, all things come and all things pass. Takes a lot of medicine to go this fast.
Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast.
Well, all things come and all things pass.
Takes a lot of medicine to go this fast.
Did man invent his illnesses? Were fundamentally unstable. Mother Mary's shrine hiding under the table. In your blue silk robe, burning cigarettes, dreaming of your soul on a Baton Rouge day. Where you going and what's on spec? Takes a lot of medicine to go this fast.
Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast.
Oh, all things come and all things pass, but
takes a lot of medicine to go this fast.
Waterhouse Médecine sur France Inter. Eh bien, la médecine du mardi d'un jour dans le monde, c'est Julia Foyce et c'est maintenant.
France Inter. Un jour dans le monde.
Julia qui, chaque semaine, nous donne des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. Colère, colère, colère cette fois-ci, Julia.
Oui, colère noire et déception.
Vous embrassez la petite chose qui est derrière vous.
Oui, la petite chose, vous l'entendez. Elle veut un jaourt. Et un jaourt, c'est quoi? C'est un yaourt. Chérie, va demander à Yasmine, s'il te plaît. Colère noire et des jeunes cavaillots. Non, je crois qu'on va pas y arriver, Fabienne. Merci. Au revoir. À tout à l'heure, Isaac. À tout à l'heure. Merci. Voilà. Voilà.
Où est-ce que vous en étiez?
Qu'est-ce qui s'est passé le jour où j'ai décidé de faire un enfant?
Ah bah, écoutez, allez savoir. Allez savoir. On en était en octobre dernier et on avait parlé ici même de John Cavallo déjà sur les réseaux sociaux.
Et il postait ceci.
Hi everyone, it's Josh Cavallo here. I'm at my home here in Adelaide. There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer and I'm gay.
Je suis footballeur et je suis gay, sujet, verbe, complément, hein. C'est sobre, c'est clair, c'est simple et c'est une mini-révolution puisque Cavallo est le tout premier joueur de foot en exercice à parler publiquement de son homosexualité, d'où la viralité de cette vidéo de très très nombreux soutiens dès les premiers jours, masquant mal, cela dit, le déluge de haine qu'il a aussi reçu en retour, déluge qui, bien évidemment, déferle jusque dans les stades et ce, dès la toute première rencontre de l'année, le 8 janvier, alors que son équipe affrontait celle de Melbourne, Cavallo sur le terrain a essuyé insultes et chants homophobes. sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il demande des comptes à ceux qui l'ont insulté, bien sûr, mais également à ceux qui ne les en ont pas empêché, les professionnels du football et les réseaux sociaux eux-mêmes, qui sont toujours un petit peu lents à réagir, on le sait, Fabienne, hein, contre le sexisme, le racisme ou l'homophobie. Je ne m'excuserai jamais d'être qui je suis, a conclu Josh Cavallo dans son dernier post. La haine ne gagnera jamais. Je veux que plus aucun enfant ou adulte n'est à recevoir les messages haineux et blessants que j'ai reçus.
Voilà, sauf que pour l'instant, il y a encore du boulot, notamment dans le sport, Julia.
C'est une étude cofinancée par l'Union européenne et menée simultanément en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Roumanie, en Grande-Bretagne et en Espagne auprès des 18-30 ans. Et il s'avère que 44% d'entre eux ont déjà subi des violences physiques pendant un entraînement sportif, la plupart du temps par le personnel encadrant. On dépasse les 60% si on se parle de violences psychologiques. Mais ces chiffres-là ne concernent que le périscolaire, le sport à l'école ou à la sortie de l'école. Quand la pratique sportive est de haut niveau, quand on est sur de la compétition internationale, c'est pire. Ils sont 84% à évoquer une forme de maltraitance. C'est énorme, c'est surprenant aussi. C'est l'une des très rares études sur le sujet où les garçons sont plus majoritairement victimes de violences sexuelles que les filles. Reste à comprendre pourquoi. L'étude ne le dit pas, alors en attendant, on les envoie tous à la bibliothèque, nos enfants ou à la cave en ce qui concerne les miens.
Allez, on enchaîne avec votre héroïne de la semaine.
Héroïne parce qu'elle s'est lancée dans un défi aussi laborieux que jubilatoire. Elle s'appelle Millie Lusson. Elle doit avoir la petite vingtaine. Elle est canadienne. Et sur TikTok, elle a posté cette vidéo. Alternance de gros plans sur elle avec cette musique en fond sonore. Hein. Elle joue gonflée, yeux au ciel, sourcils froncés et des plans serrés sur des étiquettes de vêtements consciencieusement collectées. Pourquoi ? Parce que noir sur blanc, on peut y lire ceci. Si le lavage devient tout à fait nécessaire, confiez cette tâche à votre maman ou à votre copine, puis allez faire du skate, pour la version longue et pour la version courte. Donnez-le à votre meuf, je vous jure que c'est vrai. On a aussi instruction de lavage, donnez ce pull à votre femme, c'est son boulot. Ou, autre étiquette, hein, le linge sale maintient les femmes occupées. C'est sûr qu'il n'y a pas mieux pour les garder à la maison. L'écrasement physique par accumulation de tâches domestiques, pas mieux non plus pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. 900 000 vues au total pour cette vidéo. Et un léger parfum d'obsolescence pour des vêtements qui, pourtant, ciblent principalement les jeunes. Ouais, mais c'est de l'humour, Fabienne. Hein, c'est juste qu'on n'a pas compris la blague. Comme toujours, dans ces cas-là, face au tollé, les marques ont tenté de sortir la carte du second degré. Alors, c'est pas 9-9, hein, mais on va dire qu'on fait comme on peut.
Eh oui, comme vous dites, Julia Foy.
Et moi aussi, ce soir.
Allez, donnez un yaourt à Isaac qui est de l'autre côté.
On dit un jaou, Fabienne.
On dit un jaou, ben, un jaou à la fraise. Allez, à mardi prochain.
À mardi.
Fabienne Saint-Ès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, ce soir, vous voulez rendre hommage à une figure de l'Europe, David Sassoli, le président du Parlement européen, qui est mort hier soir. Une grande partie de la presse européenne salue aujourd'hui sa mémoire. Son nom était peu familier des Français. Pour vous, ce n'est pas un hasard, c'est le reflet de notre relation aux institutions de l'Union, et c'est votre monde d'après.
David Sassoli était un homme bien. Vous allez me dire qu'on dit ça un peu à chaque disparition, a fortiori quand il s'agit d'un homme qui a combattu la maladie, une leucémie, puis un déficit immunitaire, mais en l'occurrence, si je vous en parle et si sa disparition mériterait de faire les gros titres, c'est parce que Sassoli était vraiment un homme bien. Une anecdote, en avril 2020, nous sommes en terre inconnue, en pleine première vague de la pandémie. Les bâtiments du Parlement européen sont désertés à Bruxelles comme à Strasbourg. Sassoli décide de les rouvrir pour offrir le gîte à des femmes isolées, pour distribuer des repas aux sans-abri et pour accueillir des centres de dépistage. David Sassoli est mort à 65 ans. C'était un social-démocrate, humaniste, une conscience européenne, réformateur du fonctionnement du Parlement, toujours ouvert à la discussion et au pluralisme des opinions. D'ailleurs, même ses adversaires politiques lui rendent hommage. Par exemple, le RN Jordan Bardella salue son esprit de dialogue respectueux de l'opposition. Mais Sassoli ne transigeait pas pour autant sur la démocratie et l'état de droit, ferme avec les dérives de la Pologne et de la Hongrie, persona non grata en Russie en raison des sanctions prises par l'Europe contre Moscou. C'était un ancien journaliste, présentateur du journal de 20h en Italie. Il était devenu député européen en 2009 et il avait accédé à la présidence du Parlement par surprise il y a 2 ans lors d'un compromis inattendu entre les principaux partis. Une bonne surprise.
Donc ça mérite un coup de chapeau général partout en Europe.
Oui, d'ailleurs, ce coup de chapeau est bien présent dans la plupart des grands médias européens qui ce matin ont fait leur titre principal sur sa disparition. L'Italie, bien sûr, d'abord, c'est logique. Hein. Le Corriere della Sera, par exemple, décrit son sourire bienveillant et ce qu'il appelle la gentillesse d'un grand Européen. Mais ça va bien au-delà de l'Italie. La mort de Sassoli était en une ce matin du Spiegel allemand sous le titre titre affectueux « Ciao David ». Avec ces mots, il était l'encorman de l'Europe, à la fois son promoteur et son homme orchestre. Un grand cœur, un combattant inlassable de l'Europe sociale, ajoute la presse allemande. Et les portraits vont au-delà de la fiche nécrologique type. En Espagne, El País, qui met également cette disparition en une, raconte le Sassoli amateur de jardinage, d'histoire, de musique classique. Au Portugal, Publico salue la perte pour l'Europe des « Un homme bon », un homme bon. Même au Royaume-Uni, pourtant désormais en dehors de l'Union, la BBC lui rend également hommage. Et donc finalement, c'est en France que la couverture médiatique est la plus modeste, même si la disparition de Sassoli était en une ce matin sur le site de nos cousins de France Info. Pour le reste, les articles sont dans l'ensemble assez clairsemés. Et si ce soir, on demandait dans la rue aux Français qui était David Sassoli, je parie qu'il n'y aurait pas foule à savoir répondre.
Alors ça, c'est clair. Donc vous y voyez un bon indicateur de la relation des Français à l'Europe.
Oui, et de la place accordée aux institutions européennes dans les médias français. Les deux sont liés. Souvenez-vous de cette enquête fin novembre de l'Institut Delors, on en avait parlé ici même. 56% des Français sont attachés à l'Europe, mais seulement 36% ont confiance dans les institutions de l'Union. C'est le niveau le plus bas du continent avec la Grèce. Là où, par exemple, en Irlande ou au Portugal, la confiance dans les institutions dépasse les 70%. Et cette méfiance française se double d'un désintérêt vis-à-vis spécifiquement du Parlement européen, qui est pourtant sous notre nez à Strasbourg. Ces travaux sont peu couverts par la presse française à quelques exceptions près. Par exemple, notre correspondante à Bruxelles, Angélique Boin, qui se décarcasse. Et surtout, ce désintérêt est le reflet d'un système politique français où l'exécutif, le gouvernement, le président, a largement marginalisé le législatif, l'Assemblée. Donc par décalcomanie, en quelque sorte, on a tendance à ne s'intéresser qu'à la Commission européenne, qui est d'ailleurs le bouc émissaire commode de toutes les critiques, et peu au Parlement européen. Erreur. Le Parlement de Strasbourg a le dernier mot sur 75% des activités de l'Union et ses pouvoirs ont été élargis depuis le traité de Lisbonne. Donc l'enjeu démocratique est majeur. C'est d'ailleurs pour cette raison que la succession de Sassoli fait controverse, on le sait, puisque la favorite Roberta Metsola est opposée à l'IVG. Et puis le Parlement est bien plus que la Commission, le reflet, l'émanation du peuple. Ses 705 députés sont élus au suffrage universel direct avec une forte proportionnelle. Plus de 450 millions de citoyens représentés. Le plus grand collège électoral au monde avec l'Inde a perdu hier soir son président. Ça vaut quand même plus qu'une brève.
Voilà, et vous en avez fait 4 minutes, Jean-Marc Four. Merci beaucoup, Le Monde d'après, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde, le 18-20. La suite, c'est le journal d'Hélène Philly. Juste après, il y a le téléphone sonne. Ne bougez pas.